Vous écoutez RTL.
Bonsoir Guylain Ouattrelot.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur RTL. Vous publiez chez Flammarion Vol MH370, une vie détournée. C'est le récit, mais c'est aussi votre enquête et toutes les questions autour du drame épouvantable que vous et votre fils Alexandre avez vécu avec la disparition de votre femme Laurence et de Ambre et Adrien, deux de vos trois enfants. Donc c'était le 8 mars 2014 dans le vol MH370 de la Malaysia Airlines. Ça va donc faire 4 ans. Vous publiez ce livre, mais vous avez aussi écrit à Emmanuel Macron. Je crois que la lettre va partir demain. Mm-hmm. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous demandez au président ?
Alors, ce que je demande au président, c'est que la France me donne enfin les informations dont elle dispose. Parce que lorsque j'ai vu le président précédent, François Hollande, il m'a dit « Je ne sais rien, nous ne savons rien, nous n'avons absolument rien ». Or, je lui ai dit que je ne le croyais pas, mais bon, voilà, ça a été sa réponse. Or, l'été dernier, l'Australie a tout d'un coup sorti des photos françaises qui venaient de satellites français, qui avaient été données par les militaires français, à l'Australie. Alors déjà, pourquoi l'Australie met 3 ans à sortir ses photos ? C'est déjà assez surprenant. Comme si elle les avait mis de côté et tout d'un coup, au bout de 3 ans, elle s'aperçoit des photos. Mais peu importe, c'était des photos françaises. Moi, il faut savoir que j'avais vu ces gens-là un mois plus tôt qui m'avaient dit « Nous n'avons
rien
envoyé des photos, il n'y avait rien dessus. » Donc, il est évident que la France a des informations qu'elle n'a pas données. Donc, il y a ça, il y en a d'autres.
On va venir sur le contenu du livre, mais aujourd'hui, vous êtes persuadé que des gens ou des États savent ce qui s'est passé ?
Oui. Pour moi, il est évident qu'un un Boeing 777-1, c'est l'avion le plus sûr du monde. C'était quand même une énorme carlingue. Donc, quand bien même il coupe toutes ses communications, faut savoir que les militaires continuent à le suivre.
Surtout dans cette zone.
Surtout cette zone est extrêmement surveillée. Si on croit la version officielle, il a traversé plus de 7 couloirs aériens de 7 pays différents. Donc je veux bien croire qu'il y en a certains qui dormaient, mais quand bien même ils dormaient, le lendemain ils reprennent les bandes et voient où est l'avion. Donc l'avion, il a été suivi et il a vraisemblablement été suivi jusqu'au bout.
Et comment imaginer que des militaires ou des civils sachent aujourd'hui ce qui s'est passé et ne disent rien? Au nom de quoi? Je dis ça parce qu'à un moment, et c'est vrai que ça arrive quand on vous lit, on risque de rejoindre la théorie du complot.
Ben oui, j'en ai marre qu'on me traite de complotiste. Ouais. Moi, je dis juste, s'il a fait le trajet qu'on nous dit qu'il a fait, il a été séduit par 7 ou 8 pays différents. Je ne peux pas croire que 7 ou 8 pays différents se mettent d'accord sur une théorie. Donc j'ai du mal à croire ce trajet-là, c'est tout. C'est tout ce que je dis. C'est pour ça que je ne crois pas à la zone de recherche, là où on le cherche. Moi, pour moi, il n'est pas là où on le cherche. Et vraisemblablement, pour moi, la version la plus plausible, c'est qu'il est tombé bien avant.
Oui.
Et qu'il n'a pas fait tout ce trajet. Et c'est pour ça.
Version officielle, on va dire quasi officielle, entre guillemets, d'une dépressurisation de la cabine qui aurait entraîné la mort de tout le monde, y compris des pilotes, et de l'avion qui continue à filer et qui finit par tomber à l'eau parce qu'il n'y a plus de carburant. Ça, pour vous, ça ne tient pas la route.
Non, ça ne tient pas la route.
En tout cas, s'il y a bien des gens qui savent, j'allais dire, la bonne nouvelle, c'est que forcément, un jour, le silence sera rompu.
C'est ce que je pense. C'est exactement ce que je pense. Je pense que c'est tellement gros. Il y a bien évidemment des gens qui savent. Il y a des tas de gens qui ont un petit bout de l'histoire. Un contrôleur aérien, un militaire, quelqu'un qui travaille sur une plateforme, ou je ne sais pas. Il y a des tas de gens qui ont un petit bout de l'histoire, qui demain vont partir à la retraite avec leurs secrets et qui voudront parler. Donc je pense qu'on va finir par savoir, oui.
Les quelques débris qui ont été retrouvés à la Réunion au Mozambique ne vous ont pas donné d'indication. Vous doutez même que ces débris soient arrivés par la mer. La vérité, c'est ça.
Je doute de ces débris. Je doute du lien entre les débris et l'avion. Enfin, c'est pas du clair. 100% pour moi, ce que nous a donné. Il faut savoir qu'en plus, bizarrement, mais aucun de ces débris ne donne aucune réponse sur ce qui s'est passé. Il manque toujours les plaques d'identification. Et le lien avec l'appareil, il n'est pas franchement extraordinaire. Donc, je doute un peu de ces débris. Moi, ce que me disent ces débris, c'est oui, ok, il y a eu crash. De toute façon, on me dit depuis le début qu'ils sont morts, qu'il y a eu crash. Bon, ok, ça marche. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est que si l'avion était tombé dans l'eau, comme on le dit, on retrouve toujours des débris flottants. Or là, on n'en a jamais retrouvé.
Ce n'est jamais
arrivé.
Donc, selon vous, il a explosé en vol, il a été abattu ou il a été percuté ?
abattu ou percuté, oui. Donc soit il est abattu volontairement ou involontairement, soit c'est une manœuvre militaire qui a mal tourné.
Il y a de nouvelles recherches qui ont été lancées, je crois, depuis le 23 janvier, par une société privée américaine sur une nouvelle zone de l'océan Indien. Est-ce que c'est un espoir pour vous ou est-ce que vous dites de toute façon, c'est pas là qu'il est tombé?
Je suis très content que les recherches reprennent parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas compris. Il y a un an, l'Australie dit on arrête les recherches, ceci dit, il faudrait chercher plus au nord.
Voilà, c'est ça.
Donc ça, on n'a rien compris. Donc ça fait un an qu'on se bat en disant puisque vous avez dit qu'il faut chercher plus au nord, allons-y. Ouais. Donc ça fait un an qu'on se bat pour que ça reprenne. Ça reprend, tant mieux. Moi, je ne crois pas à cette zone, mais au moins si on ne trouve rien dans cette zone.
On aura fermé une porte
et ça voudra dire quelque chose.
Alors, dans ce livre qui est à la fois évidemment et forcément très émouvant vu le drame que vous avez vécu, mais qui est aussi passionnant parce que c'est aussi un travail d'enquête, vous racontez évidemment toutes ces personnes qui vous ont contacté, notamment par Internet, pour vous donner des informations. Et il y a un personnage très présent tout au long du livre. C'est une jeune femme qui s'appelle Sarah, qui s'implique énormément. Et au bout d'un moment, vous avez des doutes et vous vous dites, finalement, elle est là pour contrôler les familles et pour nous détourner de la vérité.
Oui.
Vous en venez même à douter de ce qu'elle affirme, à savoir que son petit ami était dans l'avion.
Oui.
Donc ça voudrait dire qu'on est dans une grande manipulation, là.
Moi, je pense que, de toute façon, dans cette histoire, il est évident, vu toutes les informations que j'ai reçues, qu'il y a des gens qui sont là pour me détourner de la vérité. Il est évident que cette femme a joué un rôle extrêmement perturbant vis-à-vis des familles.
C'est-à-dire parce qu'elle s'est vraiment beaucoup impliquée auprès de toutes les familles.
Énormément impliquée. Elle a tout contrôlé, tout ce que nous avons fait. Et quelque part, tout ce qu'elle a fait, j'ai tendance à dire, c'était ni fait ni à faire. Et faudrait lire le livre, c'est très difficile en 5 minutes
bien
de
sûr.
Dire tout ce qu'elle a fait, mais globalement oui, j'ai un gros doute sur cette dame. Oui.
Voilà, et si je parle, évidemment je vous invite à lire ce livre, mais si j'en parle c'est pour vous montrer le niveau de manipulation auquel on pourrait être confronté dans cette affaire. Ce livre, vous l'avez écrit évidemment pour vous. Pour votre fils, pour la vérité.
Je l'ai écrit pour mes chers disparus, pour mon fils, pour la vérité, parce que j'avais besoin de l'écrire. Je pense que ça fait partie de mon process de reconstruction quelque part aussi. J'avais besoin d'écrire tout ce que j'ai vécu. J'avais besoin de le dire. Et aussi pour une fois de plus dire aux gens, si vous savez quelque chose, il est peut-être temps de le dire. Ça fait 4 ans maintenant. Il y a peut-être des choses qu'on peut accepter 4 ans plus tard, qu'on pouvait pas accepter il y a 4 ans.
Et donc la lettre à Emmanuel Macron, elle part demain avec un
oui,
exemplaire hein,
exactement.
De ce livre. Guylain Watrelot, c'est un livre écrit avec Gaël Lejeune. Vol MH370, une vie détournée, c'est chez Flammarion. Merci beaucoup
Merci.
D'être venu nous voir ici sur RTL.